Nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'humble vie de saint Antoine de Padoue. Vous connaissez certainement ce grand saint dont on voit la statue dans presque toutes nos églises. Il porte l'enfant Jésus dans ses bras et la dévotion populaire l'invoque pour retrouver les objets perdus. Désormais, quand vous vous arrêterez devant la statue de saint Antoine, vous saurez, après avoir vu ce film, quelle fut sa vie, toute vouée au service de Dieu et au salut des âmes. Celui que nous invoquons aujourd'hui sous le nom de saint Antoine de Padoue s'appelait à son baptême Ferdinand. Il naquit à Lisbonne, au Portugal, le 15 août 1195, jour de l'Assomption de la Vierge Marie. Très tôt, il se révéla fier et ardent. Il aimait à jouer à la guerre contre les musulmans qui menaçait la péninsule ibérique. Sa famille était descendante de Godefroy de Bouillon et de Teresa de Tavera. Les parents élevèrent l'enfant à l'école de la cathédrale de Lisbonne, tenue par des chanoines qui lui donnèrent une profonde éducation religieuse. Par-delà cette éducation, Ferdinand sentait déjà croître en lui l'amour du prochain et s'apitoyait de la misère des pauvres gens. Un jour d'été, son père lui demanda de distribuer le grain aux oiseaux, mais Antoine voulait assister à la sainte messe. Il ne trouva pas de meilleure solution que d'enfermer la volaille dans la réserve de grain, afin qu'elle se nourrisse à satiété, puis de la libérer au retour de la messe. Le miracle fut que les oiseaux obéirent un à un au conseil d'Antoine. De Lisbonne, il voyait s'en aller sur la mer les grands vaisseaux vers des destinations aux syllabes magiques: Antioche, Rome, les lieux saints. Si le pape ordonne une nouvelle croisade contre les infidèles, je veux être parmi les premiers, pensa-t-il. Déjà, il avait décidé de se consacrer à Dieu, et lorsque la famille donnait une de ses réceptions brillantes, avec danse et chansons légères, il s'isolait et conservait dans son cœur l'appel de Dieu, chaste et pur. Pourquoi voulez-vous entrer chez nous, mon fils? Vous savez que les chanoines réguliers de Saint-Augustin ont une règle très sévère. C'est la raison pour laquelle votre ordre m'attire, révérend père. Il entra ainsi au monastère de Coimbra. Monastère connu pour l'austérité de sa règle, il sentait le besoin d'une intense solitude pour n'appartenir qu'à Dieu seul. Au couvent de Coimbra, les années passèrent et l'humble religieux, plein de sagesse et de bonté, faisait de grands progrès dans la perfection à l'école de ses vieux maîtres. Un jour, alors qu'il était déjà prêtre, saint franciscain visite le monastère. La conversation s'engagea entre Ferdinand et les franciscains. Un des frères franciscains dit « Si vous connaissiez François d'Assise, notre fondateur, frère Ferdinand, nous avons vécu tout indignes que nous sommes 2 ans à ses côtés et nous avons vu des miracles. Et quel amour de Dieu, quel zèle pour le prochain. Nous partons maintenant pour le Maroc où nous allons prêcher l'évangile aux infidèles. » Au revoir, mes bien chers frères, et que Dieu vous accompagne. Merci, frère Ferdinand. Peut-être trouverons-nous dans ces contrées lointaines la grâce de mourir pour le Christ. Si vous mourrez pour le Christ, je prendrai votre relève. Je serai le 6e. S'écrie Ferdinand enthousiasmé. Et quelques mois après, le Portugal en fête, le roi, la reine et tout son peuple vénéraient les reliques de saints frères franciscains, martyrisés pour leur foi dans le lointain Maroc. Ferdinand, bouleversé, veut en savoir davantage. Il interroge un brave homme qui revient justement du Maroc.
Oui, frère Ferdinand, ils sont morts comme des saints. Ils chantaient tout le temps en regardant le ciel, comme s'ils voyaient notre Seigneur. Ils disaient, loué soit le Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle.
Et Ferdinand se ressouvint de sa promesse.
Si vous mourrez pour le Christ, je prendrai votre relève. Je serai le 6e.
Il quitta le monastère de Coimbra pour celui d'Olivares qui appartenait à l'ordre franciscain. Là, il prit le nom d'Antoine et il attendit avec impatience son départ pour le Maroc. Le grand jour arriva. Frère Antoine, en prière, regardait s'éloigner sa terre du Portugal. Mais arrivé au Maroc, il tomba malade d'une forte fièvre qui mit en danger ses jours. Malgré ses réticences, il fallut le ramener sur le bateau et lui faire reprendre le chemin du retour vers le Portugal. Antoine n'était pas au bout de ses peines. Dans la mer s'éleva une terrible tempête. Ce fut comme si les vagues voulaient fracasser le navire. Tous attendaient la mort. Ils virent apparaître enfin la terre ferme. C'était la belle et hospitalière Sicile. Antoine reprit des forces. Il fut bientôt sur pied et il profita de sa présence en Italie pour monter jusqu'à Assise, Assise où se trouvait justement Saint François. Antoine écouta la parole de feu de Saint François. À la fin, le frère Gratien lui dit « Vous êtes loin du couvent d'Olivares. Vous n'avez qu'à venir au couvent du Mont-Paul, près de Forlì. Vous verrez qu'il y aura du travail. » Saint Antoine comprend, après les désillusions du Maroc, la maladie, le naufrage, que tout est entre les mains de la Providence. Maintenant, dans la solitude du mont Paul, il s'adonne avec fougue à la prière. Quand après un an d'héroïque humiliation, voici qu'on le demande pour remplacer un père prédicateur lors de la première messe d'un jeune prêtre. Sa parole sacrée bouleverse tellement l'auditoire que Saint François lui-même, apprenant cela, lui donne l'ordre de prêcher à toute l'Italie. Et saint Antoine s'en va sur les places des villages, dans les églises, partout il prêche la véritable doctrine du Christ. À Rimini, il convertit des hérétiques cathares par sa parole sainte et persuasive. Un jour que des hérétiques ne voulaient pas l'écouter, il alla prêcher aux poissons. Il leur parla en ces termes. Bénissez et louez le Seigneur, frères poissons, et rendez grâce avec moi. Écoutez la parole de Dieu, car les hérétiques ne veulent pas l'entendre parler. La voix du prodige fait vite le tour de la ville et bientôt tous viennent écouter l'éloquence sacrée de l'ardent franciscain. Les conversions se multiplient. Invité en France, il va pendant 3 ans lutter contre la secte hérétique des Albigeois. Tout d'abord, on se moque de lui. Puis on commence à le prendre sérieux. N'a-t-il pas fait des miracles? Ainsi un jour qu'un hérétique refuse de croire que Jésus-Christ est dans l'hostie, voici saint Antoine qui amène le Saint-Sacrement, le présente à une pauvre mule, et sous les yeux effarés des assistants, on voit la mule s'agenouiller devant le Saint-Sacrement. À Bologne, en France, il fonde des écoles de théologie où on étudie les Saintes Écritures. Très vite, ses disciples, par leur profonde connaissance de la religion, sont à même de combattre l'hérésie albigeoise. Beaucoup d'entre eux, touchés par la grâce et la bonté de saint Antoine, se convertissent. Montpellier, Toulouse, Velay, Le Puy, Limoges, partout saint Antoine porte la paix. Sa sainteté, son humilité y contribuent tout autant que son éloquence. Bientôt, l'intérieur de l'église n'est plus suffisant pour contenir la foule venue l'écouter. Un jour, à Bourges, il se voit arrêté par un personnage menaçant qui s'estime humilié par saint Antoine. « Frère, je n'écouterai jamais votre parole. » « Au contraire, » répond le saint, « au contraire, j'honore en vous l'illustre martyr du Christ. Je vous connais, vous serez le 6e, à ma place. » Souvenez-vous de moi, illustre martyr du Christ. L'étranger n'a pas compris les paroles de saint Antoine. Mais converti à la religion catholique, il ira prêcher l'évangile à Jérusalem. Et là, il connaîtra le martyr. À Limoges, Antoine reçoit une visite. Un courrier lui annonce que le séraphique François d'Assise s'est envolé au paradis le 2 septembre 1226. Sa mission de France est terminée. Élu provincial pour toute l'Italie du Sud, Père Antoine va continuer infatigable sa prédication. Les miracles vont continuer. Il ressuscite des morts. Ici, il vient de ressusciter une enfant déjà défigurée par la mort, devant ses parents éblouis. Le pauvre franciscain, l'humble frère, est même appelé à prêcher à Rome, devant sa sainteté le pape et le collège des cardinaux. Il retourne à Padoue, où le cruel Aizelin sème la terreur, assassinant, pillant et torturant. Là, avec courage, il se présente à lui et le somme, au nom de Dieu, de s'amender. Aizelin se convertit. Bienheureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Mais sa souffrance continuelle, de voir tant d'âmes se perdre, son héroïque charité, ses prédications continuelles, se répercutent sur sa santé. À 35 ans, malade, il doit retourner au couvent. Si je ne peux plus prêcher, dira-t-il, au moins pourrais-je écrire. Et là, il compose des sermons magnifiques dans lesquels brille un tel amour de Dieu et des âmes que le souverain pontife Pie XII le déclarera docteur de l'Église. Le médecin lui demande de s'arrêter d'écrire. « Vous êtes à bout, père Antoine. Vous devez vous reposer. Cessez tout travail. Vous avez, certes, renoncé à votre charge de provincial, mais vous continuez à écrire, et vous vous remettez même à prêcher, ce qui est plus grave. Père Antoine, j'ai une grâce à vous demander. Je voudrais que vous vous retiriez ici, dans cette forêt. » « Oui, répond père Antoine. Oui, dans la solitude de cette forêt, parmi les branches des arbres, comme un oiseau du bon Dieu. » Mais d'une chair toute franciscaine, la voix tant aimée de l'apôtre retentit de nouveau une dernière fois, car l'humble fils du séraphique François d'Assise offre ses dernières forces à la foule des fidèles attirés par sa sainteté incomparable. Mourant, on le ramène à Padoue. On le ramène au monastère Sainte-Marie. Des chrétiens se sont rassemblés pour le voir passer. « Tu vois, mon enfant, c'est lui qui t'a guéri. C'est lui qui t'a ressuscité. C'est lui qui t'a fait recouvrir la vue. » La nouvelle de son retour bouleverse la ville. À l'instant de la mort, Antoine se dresse encore une dernière fois et dit à une dernière prédication, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme et de toutes tes forces et de tout ton cœur et le prochain comme toi-même. » Et on entend une voix du ciel s'écrier, entre dans la joie de ton maître. Il meurt le 13 juin 1231. Âgé de 36 ans. Ces miracles, les miracles qui suivront sa mort furent tels qu'une année plus tard, le pape Grégoire IX le déclarera saint. Une splendide basilique conserve encore aujourd'hui à Padoue la langue encore intacte du saint prédicateur. Quelque part dans le lointain Brésil. Là, un village, Bororo, est en émoi car des missionnaires s'approchent. On veut le tuer, mais le chef de la tribu s'y oppose. Pourquoi, chef, ne veux-tu pas tuer les missionnaires? Ils sont dangereux, demande Jiri et Curéu. Tu as peur, n'est-ce pas? Tu n'es plus notre chef. Non, répond le chef. Mais ils portent sur eux une croix. Et je sais que les tuer serait obéir à l'esprit du mal et déchaîner la colère des dieux. Ils mourront. Tu n'es plus notre chef. D'ailleurs, je viens de leur jeter un maléfice. Un maléfice. Les hommes blancs mourront et leur esprit s'unira à l'esprit du mal contre nous. Les guerriers découragés sont entrés dans les huttes. Je crois bien que notre chef a perdu tout prestige en refusant d'attaquer les hommes blancs. Jiri et Curéu est le plus fort. Mais dans sa hutte, le chef donne des ordres à un guerrier fidèle. Guerrier fidèle, le village est en danger. Jiri et Curéu a lancé un maléfice contre les blancs et cette malédiction va tomber sur nous. Je vais te dire pourquoi. Voici des années, je découvris dans la forêt des hommes blancs. Je les tuais. Je n'épargnais qu'une jeune enfant à cause de son âge. Je l'appelais Rayon de Lune. Je me pris même de pitié pour elle et je l'élevai comme ma propre fille. Or, elle mourut quelques années plus tard, tenant dans ses mains une croix. Avant de mourir, elle me fit jurer d'épargner la vie de ceux qui porteraient ce signe sur eux. C'est ce que je fis. «
Voilà pourquoi, guerrier fidèle, je dois épargner la vie des missionnaires. Maintenant, va, cours auprès d'eux et observe l'effet du maléfice de Jiriekureu. Puis, reviens m'informer de ce que tu auras vu. Vous pouvez compter sur moi, chef. Deux jours après, guerrier fidèle était de retour. Que le grand esprit guide tes pensées, chef. Les hommes blancs sont plus forts que l'esprit du mal. Le maléfice lancé contre eux n'a eu aucun effet. Les hommes à la veste blanche t'offrent même ce couteau, signe de leur amitié, et demandent à te voir. J'ai même pu toucher leur croix en éprouvant une grande joie. Puis les hommes blancs se sont agenouillés devant une puissante dame, plus belle que le soleil, et qui portait dans ses bras un enfant qui me souriait. Et le chef pensa, « Oui, je me souviens, une belle dame, belle comme le soleil. Oui, oui, je me souviens. Après le serment fait à rayon de lune, je la vis en songe. Je me souviens même de ses paroles. Elle me dit, « Je suis la puissante dame du ciel. Va vers ceux que tu verras venir vers toi, habillée d'une veste blanche. » Maintenant, je comprends, guerrier fidèle. Ces hommes blancs ne sont pas des ennemis. C'est le grand esprit qui les envoie. Oui, grand chef, mon arc ne servira pas contre les hommes blancs. Mais Jiriekureu qui a lancé ce maléfice n'est pas du même avis. Puisqu'il en est ainsi, j'irai attaquer moi-même les hommes blancs avec les femmes et les enfants du village. Grand chef, quittez ce village. Ces chiens maudits d'hommes blancs doivent mourir sous nos flèches empoisonnées et je serai le premier à les tirer. Jiriekureu, ton maléfice n'a rien fait contre les hommes blancs. Tu es le fils de l'esprit du mal, répond le chef. Pourquoi n'interroges-tu pas le sorcier, grand chef? C'est lui qui nous dira ce qu'il faut faire, si les ennemis blancs doivent vivre ou mourir. Bien, cette nuit, quand la lune se reflétera sur le fleuve, le sorcier interrogera le grand esprit. Et cette nuit-là, Bukepa, le vieux sorcier du village, interrogea le grand esprit. Chaque fois qu'une grave décision était à prendre, on allait voir le sorcier. Le vieux sorcier commença par fumer une espèce de cigare. C'était vraisemblablement une drogue. Car à mesure que la fumée sortait de la bouche, ses yeux se faisaient effrayants, comme remplis d'une vision de cauchemar. Il commença à trembler, à s'agiter, comme si l'esprit du mal se fût emparé de lui. Pris de terreur, le sorcier dansait frénétiquement, tendant le cigare maudit, fumant aux uns et aux autres. Le sorcier se met maintenant à délirer. Je vois l'esprit du mal, commandé par leur chef, menacer le village. Vous allez tous être atteints et votre chair sera dévorée par les vers. L'esprit du mal me parle, écoutez. Les hommes blancs sont venus du sud avec des enchantements
Ils briseront vos arcs et ils éteindront le feu sacré. Où sont les vaillants guerriers? Je vois le signe des hommes blancs s'élever sur notre village. Et je vois le sang d'un homme couler sur la tête de chacun de nous. C'est un sang qui brûle. C'est un sang qui détruit toute chose. Sauvez le village. Portez-moi la tête des hommes blancs. Pendant que le sorcier essayait de convaincre les indigènes, les hommes blancs, les missionnaires, élevaient leur pauvre mission. Don Balzola, me voilà. Ah, mes pauvres âmes, j'en peux plus, mais cette nouvelle lutte est achevée. En peu de jours, nous avons construit un village. Et vous verrez que bientôt, il ne suffira plus, et les Bororos eux-mêmes viendront nous aider. Et vous, père Léopold, il faut vous reposer un peu. Ah, encore un peu de bois pour achever cette porte, et ce sera fini pour aujourd'hui. Savez-vous que cette nuit, 4 ou 5 indigènes se sont approchés du campement et qu'ils se sont enfuis? Pourquoi se sont-ils donc enfuis? Fatigués comme nous étions, nous devions ronfler si fort qu'ils se sont effrayés et qu'ils ne reviendront plus. Mais soudain, regardez les Bororos, ils arrivent. Dieu soit béni. Venez, venez, mes amis. Ces huttes sont pour vous. Avancez, courage. Soyez les bienvenus. Et Don Balzola, qui connaissait un peu la langue des Bororos, réussit à comprendre ce qui s'était passé au village. Ceux qui avaient cru le sorcier avaient suivi Jiri et Curéu, longeant le fleuve vers le nord. Les autres, qui ne l'avaient pas cru, avaient suivi leur chef, décidé à rencontrer les missionnaires. Prenez, tout cela est pour vous. Je m'appelle le père Balzola. Balzola.
Balzopa.
Non, Balzola.
Balzola.
Oh mon Dieu, merci. Merci pour ce grand moment. Le soir, le chef de la tribu parla avec le père Balzola de ce qui lui était arrivé dans le passé. Rayon de lune, la croix, sa promesse de ne jamais toucher quiconque porterait ce signe, et la dame vêtue de soleil. Père, où est maintenant Rayon de lune? Elle est au ciel, là dans le ciel.
Là dans le ciel? Oui?
Oui, dans le ciel. Le ciel où un jour vous verrez la dame, belle comme le soleil, la mère de Jésus qui s'est fait homme pour nous sauver. La croix que tu embrasses maintenant est comme celle que tu trouvas entre les mains de Rayon de lune. C'est le signe de Jésus. Les indigènes veulent revêtir les habits des hommes blancs. Les pères les regardent amusés.
Habillé comme les hommes blancs, tu ressembles à un véritable kangourou.
Et à la mission, les jours s'écoulaient paisibles et heureux. Les indigènes étaient dans la joie à découvrir que la vie des missionnaires était possible même pour eux. Mais un jour, Père, père! Qu'y a-t-il, vaillant guerrier?
Le long du fleuve.
Mais parle, le long du fleuve.
J'aperçus Jiri et Kuréu avec les hommes de la forêt. J'ai pu leur parler. Ils ont chassé le sorcier parce qu'il n'arrivait plus à guérir les malades. Ils disent que c'est un châtiment du grand esprit.
Bien, et toi, que leur as-tu dit?
J'ai dit qu'on était bien avec les hommes blancs.
Bien, vaillant guerrier. Conduis-moi à eux.
Les voilà, les hommes de la forêt.
Bien, vaillant guerrier, approche la barque du rivage. Jésus, aidez-moi. Marie, reine des missions, convertissez leur cœur. Le canoë aborda vite le rivage. La blanche figure du missionnaire fit grande impression sur les indigènes. Mais leur stupeur fut encore plus grande quand ils l'entendirent parler leur langue. Jiri et Kuréu, que le grand esprit soit avec vous. Que mon bras te défende, veste blanche. Le ton avait changé. La rencontre devint vite cordiale. Le vaillant guerrier promit même à Jiri et Kuréu, s'il devenait docile à son chef, de lui livrer un secret qui le rendrait plus fort que le sorcier et ses maléfices. Jiri et Kuréu réunit les femmes et les enfants et se rendit chez les missionnaires. L'arrivée fut acclamée avec enthousiasme.
Nous allons fêter l'arrivée de Jiri et Kuréu et de ses amis. N'ayez pas peur, ils viennent se réconcilier.
Peu après, les deux groupes Bororo se trouvèrent réunis dans une joie commune. Les missionnaires n'en croyaient pas leurs yeux. Le soir, les religieuses distribuèrent la soupe aux enfants avec une tendresse toute maternelle. Image chrétienne, image de paix, de sérénité et de joie. Les mois sont passés. Les Bororo ont appris à cultiver les champs et à construire tout ce qui pouvait leur être utile. Les femmes prennent goût aux soins ménagers. Et dans tous, petits et grands, la vérité du christianisme fait de profondes transformations. Le grand chef parle au père Balzola.
Père, là-bas, de l'autre côté du fleuve, il y a beaucoup d'autres tribus et beaucoup d'autres sorciers.
Oui, c'est vrai, chef. Nous irons aussi vers eux.
Un jour, tu verras, dans ce coin du Brésil, beaucoup de missionnaires remonteront le fleuve et se répandront dans les territoires encore inexplorés.
Ils arracheront à Satan, l'esprit du mal, de nombreuses âmes rachetées par le sang du Christ. Thank you.
la ville éternelle, la capitale du monde catholique. Nous voici à l'entrée de la célèbre place Saint-Pierre. Les deux palais qui encadrent la basilique marquent la fin de la Via della Conciliazione. Cette voie monumentale, bâtie sous Mussolini, après les accords du Latran qui eurent lieu en 1929. Voici la place Saint-Pierre, la colonnade du Bernin, fruit de 10 années d'études, de 1657 à 1667, nous ouvre les bras. L'obélisque qui se dresse fut envoyé d'Héliopolis en Égypte à l'empereur Caligula. Il mesure 41 mètres de haut et il fut mis à cet endroit par le pape Sixte Quint vers 1586. Deux gracieuses fontaines de Carlo Maderno, le même qui fit la façade de Saint-Pierre, nous signalent que l'église est fontaine de grâce qui coule abondante comme une eau vive. Les colonnes chantent harmonieusement la gloire éternelle de l'église. On en dénombre 284, ainsi que 88 pilastres qui forment un hémicycle de 4 rangées de colonnes. La partie du palais qui s'élève au-dessus du porche droit de la place Saint-Pierre comprend les appartements du souverain pontife. La deuxième fenêtre à droite est celle du bureau du pape. Le palais du Vatican comprend 1400 pièces, chapelles et corridors. Le pape n'en occupe qu'une petite partie. Le reste est occupé par les congrégations romaines, la précieuse bibliothèque vaticane et le fameux musée du Vatican. La colonnade, chef-d'œuvre du Bernin, fut commandée par Alexandre VII. Elle est surmontée de 140 statues de saints qui sont les fleurs de notre rédemption et la finalité de toute l'activité de l'Église. L'entrée du plus grand sanctuaire de la chrétienté est incomparable par la grandiose harmonie de son aspect architectural. La basilique Saint-Pierre, la plus grande et majestueuse église du monde, est considérée depuis longtemps comme le cœur de la chrétienté. Ici est enseveli Saint-Pierre, qui fut le premier pape. Ici fut couronné l'empereur Charlemagne en l'an 800. Ici se sont agenouillés de nombreux rois, princes, évêques, papes et saints. La basilique actuelle fut construite par le pape Jules II, de 1506 à 1626, en remplacement de l'ancienne basilique constantinienne bâtie en 319. Collaborèrent à sa construction les architectes Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Vignola, Della Porta, Fontana et Maderno. La coupole qui couronne l'édifice indique la sépulture de l'apôtre Pierre. C'est dans la basilique Saint-Pierre que se trouve le corps du grand pape Saint-Pie-X. La coupole s'élève majestueusement vers le ciel, reflet de la puissance de Dieu. Elle a 42 mètres de diamètre et s'élève à 119 mètres du sol. Sur la corniche de la façade se dressent les statues de notre Seigneur Jésus-Christ, de Saint Jean-Baptiste et des 12 apôtres, hôtes de 5,70 m. Héros de l'Évangile, il se dresse au-dessus de la haine et des persécutions du monde qui crut triompher d'eux. À leurs pieds, voici Rome. À gauche de la façade Saint-Pierre, voici l'arc delle Campane, une des entrées de la toute petite cité du Vatican, laissée au pape après les accords du Latran en 1929. Voici un garde suisse dans son pittoresque costume Renaissance. À droite de Saint-Pierre, on trouve la gracieuse fontaine des Tiares, sculptée par le Bernin. La tiare est la triple couronne qui signifie le triple pouvoir du pape sur l'église militante, l'église souffrante et l'église triomphante. Les grandes clés indiquent le pouvoir de remettre les péchés. Nous voici maintenant à la basilique Saint-Jean de Latran, mère et maîtresse de toutes les églises. C'est là qu'habitèrent les papes durant le premier millénaire chrétien. Elle est dédiée aux deux Saint-Jean, Saint-Jean l'évangéliste et Saint-Jean le Baptiste. Elle nous parle d'amour de Dieu et de martyr. La façade fut refaite en 1650 par Borromini. Elle est surmontée de 12 statues de Notre Seigneur et des saints, hautes de 7 mètres. La façade latérale est l'œuvre de Dominique Fontana, 1584. Les deux clochers romans datent de 1360. La grande niche rappelle que c'est là que siégea d'abord le souverain pontife. Les mosaïques datent de 1700. Au centre de la place s'élève un obélisque égyptien recouvert d'hiéroglyphes parfaitement conservés. Cette église est placée sous la haute protection des souverains français. La basilique Sainte-Marie Majeure est la plus grande église du monde, dédiée à Notre-Dame. C'est un chant triomphal qui exalte la maternité divine de la Vierge Marie. Elle fut élevée par le pape Liber sur un lieu qui lui fut indiqué par de la neige tombée miraculeusement un soir d'été, le 4 août 352. C'est pourquoi on l'appelle aussi Sainte-Marie des Neiges. La façade est de 1700. C'est là, entre autres, que se trouve le corps du glorieux pape Saint-Pie-V. Le beau clocher romain a été élevé en 1377. C'est le plus haut de Rome. Le magnifique intérieur de la basilique est plein de reliques insignes et d'œuvres d'art célèbres. Les trois nefs sont divisées en colonnes ioniques. Voici maintenant devant nous la quatrième basilique de Rome, Saint-Paul hors les murs. Ici est enseveli Saint-Paul, l'apôtre des gentils, qui versa son sang pour le Christ sous l'empereur Néron. L'empereur Constantin bâtit ici une basilique qui, après maintes tribulations, fut détruite par un incendie en 1823. Elle fut reconstruite comme avant et consacrée en 1854 par Pie IX. Ici, nous voyons l'entrée de la basilique avec la statue de Saint-Paul, dont la voix puissante secoue encore le monde. La cour d'entrée compte 150 colonnes de granit. Voici le cloître romain, chef-d'œuvre d'art, d'élégance, de grâce et de marbre décoré. Il fut élevé vers l'an 1200. « contemplons de plus près les splendides mosaïques du cloître. Le Panthéon est un des plus augustes monuments de l'Antiquité. Dédié d'abord aux divinités païennes, il fut consacré en l'an 609 au culte de Notre-Dame des Martyrs. Il contient de nombreuses reliques des saints martyrs provenant des catacombes. Construit par l'empereur Agrippa en 27 avant Jésus-Christ, il fut refait par Adrien. L'intérieur grandiose abrite les tombeaux des rois d'Italie, Victor Emmanuel II, Umberto Ier et du grand artiste Raphaël. La basilique Saint-Laurent hors les murs surgit sur le lieu où fut enseveli le Saint-Diacre Laurent, martyrisé durant la persécution de Valérien en l'an 258. L'Église veille sur le corps des martyrs. Dans la crypte est enseveli le pape Pie IX. Au sommet du Capitole fut érigée au Ve siècle l'antique église de Sainte-Marie in Araceli, où, selon la tradition, la Sibylle prédit à l'empereur Auguste la naissance du Rédempteur. Dans la sacristie est gardée une très vieille et très vénérable statue en bois d'olivier de Gethsémani, qui représente l'enfant Jésus, et les Romains aiment venir prier devant son image. Sainte Marine Cosmedine est une des plus typiques églises du Haut Moyen Âge. Elle date du VIe siècle et fut donnée au VIIIe siècle aux Grecs qui fuyaient la persécution des iconoclastes, d'où son nom de Cosmedine, qui veut dire ornement. Son campanile est du XIIe siècle. C'est là qu'on trouve la célèbre Bocca della Verità, sculpture à visage humain. L'église de la Trinité des Monts est une des plus célèbres églises françaises. Elle domine un grandiose escalier. De là, on a un beau panorama sur la place d'Espagne qui est le quartier des artistes. La place Navone est une des plus célèbres de Rome. L'église Sainte-Agnès, la célèbre Vierge Martyre, citée au canon de la messe, offre un exemple illustre de vertu à tous les Romains. La place possède trois grandes fontaines, œuvre du Bernin. L'église Sainte-Marie de Lorette, au premier plan, est l'œuvre de Lucano del Duca. 16e siècle, elle possède une très belle lanterne. La deuxième que l'on voit a pour nom Saint-Nom de Marie. Elle lui est postérieure de 2 siècles. Le château Saint-Ange, un des plus vieux monuments de Rome sur les rives du Tibre, là, les souvenirs de l'Antiquité, de l'Église primitive, du Moyen-Âge, de la Renaissance et des derniers siècles se rejoignent en un seul et même monument. Construit comme tombeau de l'empereur Adrien, il est aujourd'hui surmonté d'une statue de Saint-Michel-Archange. Le pont est aussi vieux que le château. Sur ce pont sont passées des générations de pèlerins, car c'était le seul à donner accès à Saint-Pierre de Rome. Il fut embelli de 10 statues d'anges, œuvre des élèves du Bernin. Les anges portent les symboles de la Passion du Christ. Ici, un ange porte le voile de Sainte Véronique. Le Colisée est le plus grand monument de la Rome ancienne, inauguré vers l'an 80. Ici eurent lieu des combats de gladiateurs, de bêtes féroces et des batailles navales. Il pouvait contenir près de 50 000 spectateurs. Les trois ordres architecturaux, dorique, ionique et corinthien, sont superposés de bas en haut. De nombreux martyrs trouvèrent la mort en ces lieux. C'est pourquoi le pape Benoît XIV y érigea une croix monumentale. Les catacombes de Calixte sont les plus importants cimetières souterrains de Rome, situés près de la voie Appia. Ces longs souterrains, qui font en tout 500 km, furent les lieux où les premiers chrétiens se réunirent par crainte des empereurs romains pour célébrer les saints mystères sur les tombes des martyrs. Elles furent redécouvertes en 1850 par l'archéologue Rossi. Ici, nous voyons les catacombes de Saint-Domicile. Ainsi prend fin notre voyage à travers les plus sacrés et les plus splendides monuments de la Rome chrétienne. Regardons une dernière fois la place Saint-Pierre. Ce morceau de terre bénite d'où rayonne sur le monde entier la lumière de la civilisation chrétienne. La basilique Saint-Pierre est construite sur le tombeau même de l'apôtre. Les dernières recherches faites dans les grottes vaticanes en 1942 mettent en lumière les preuves que c'est bien ici que fut enseveli l'apôtre Pierre. Notre Seigneur Jésus-Christ a édifié son Église sur Pierre. Il a constitué chef du collège apostolique. Les tableaux des autels de la basilique reproduisent les scènes de l'évangile dont Pierre fut le principal acteur. Ici, Jésus marche sur les eaux agitées du lac de Tibériade. Les disciples, à le voir ainsi marcher sur l'eau, sont troublés. « C'est un esprit !» se mettent-ils à crier. Soudain, Jésus leur parle. « Du calme, c'est moi, n'ayez pas peur. »« Seigneur, dit Pierre, si c'est vous, commandez que je vienne jusqu'à vous en marchant sur l'eau. »« Viens. » Et Pierre, descendant de la barque, chemine sur l'eau vers Jésus. Mais à cause de la violence du vent, il se met à douter et à s'enfoncer. « Seigneur, sauvez-moi !» Et Jésus, étendant la main, le saisit. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et Pierre s'écrie, « Vous êtes vraiment le Fils de Dieu !» Durant sa transfiguration, Jésus révèle son identité divine, Saint Pierre est appelé à être témoin de cette révélation cruciale. Maître, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, dressons trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. Il parlait encore quand une nuée lumineuse enveloppa Jésus et les prophètes. Au milieu de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Heureux es-tu, Simon Bar-Yona, car ce n'est pas ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans le ciel. Saint-Pierre est ainsi chef et fondement de l'Église du Christ. Au jour de la Pentecôte, il recevra la plénitude du Saint-Esprit. Lui qui avait trahi son maître ira courageusement au supplice et versera son sang pour Jésus. En Pierre vit Jésus. Il accomplit les mêmes œuvres que son divin maître. Un jour, Saint-Pierre et Saint-Jean se rendaient à la prière vers les 3 heures de l'après-midi. Or, il y avait à la porte du temple un homme qui ne pouvait marcher et qui demandait l'aumône. Voyant Saint-Pierre et Saint-Jean qui allaient rentrer dans le temple, il leur demande l'aumône. Pierre le regarde et dit, « Tournez-vous vers nous. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de Jésus, levez-vous et marchez. » Et le prenant par la main, il le souleva. Ses pieds alors reprennent vie, et il se met à marcher. Il entre ainsi dans le temple, exultant et louant Dieu. La jeune communauté commence à grandir. Tous ceux qui la composaient avaient un seul cœur et une seule âme. Ils mettaient en commun ce qu'ils possédaient, et Pierre donnait à chacun selon ses besoins. Un jour, un homme nommé Anani et Saphire, sa femme, vendirent ensemble un fonds de terre. Et cet homme, ayant retenu de concert avec sa femme une partie du prix qu'il avait vendu, apporta le reste et le mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit, « Anani, comment Satan a-t-il tenté votre cœur pour vous porter à mentir au Saint-Esprit et à détourner une partie du prix de ce fonds de terre ? Ne demeurait-il pas toujours à vous, si vous l'aviez voulu garder ? Et après même l'avoir vendu, le prix n'en est-il pas encore à vous ? Comment donc avez-vous conçu ce dessein dans votre cœur ? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu. » Anani, ayant entendu ces paroles, tomba et rendit l'esprit, et tous ceux qui en entendirent parler furent saisis d'une grande crainte. Aussitôt, quelques jeunes gens prirent le corps et l'ensevelirent. Environ 3 heures après, sa femme, qui ne savait rien de ce qui était arrivé, entra. Et Pierre lui dit, « Femme, dites-moi, n'avez-vous vendu votre fonds de terre que cela ?» Elle lui répondit, « Oui, nous ne l'avons vendu que cela. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous ainsi accordés ensemble pour tenter l'Esprit du Seigneur ?»« Voilà ceux qui viennent d'enterrer votre mari qui sont à la porte, et ils vont aussi vous porter en terre. » Au même moment, elle tomba à ses pieds et rendit l'esprit. Ces jeunes hommes étant entrés, la trouvèrent morte, et l'emportant, ils l'ensevelirent auprès de son mari. Cet événement répandit une grande terreur dans toute l'église et parmi tous ceux qui en entendirent parler. Il y avait aussi à Joppé, entre les disciples, une femme nommée Tabitha, selon que les Grecs expliquent ce nom. Elle était remplie de bonnes œuvres et elle faisait beaucoup d'aumônes. Or, étant tombée malade en ces temps-là, elle mourut, et après qu'on l'eut lavée, on la mit dans une chambre haute. Et comme Lydda était près d'elle, les disciples ayant entendu dire que Pierre y était, ils envoyèrent vers lui 2 hommes pour le prier de prendre la peine de venir jusque chez eux. Pierre partit aussitôt et s'en alla avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, ils le menèrent à la chambre haute où toutes les veuves se présentèrent à lui en pleurant et en lui montrant les robes et les habits qu'elles leur faisaient. Alors Pierre, ayant fait sortir tout le monde, se mit à genoux et en prière. Et se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, levez-vous. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle se mit sur son séant. Il lui donna aussitôt la main et la leva. Et ayant appelé les saints et les veuves, il la leur rendit vivante. Ce miracle fut su de toute la ville, et plusieurs crurent au Seigneur. Une autre fois, prévenu par une révélation divine, il va trouver le centurion Corneille et sa famille et leur prêche la doctrine du Christ. Or, pendant qu'ils parlaient, le Saint-Esprit descendit sur eux et tous furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Les actes des apôtres ne nous parlent pas de la mort de Saint-Pierre, mais nous savons qu'il fut crucifié durant la persécution de Néron. On le crucifia la tête en bas, car par humilité, Pierre demanda à ne pas être crucifié comme son divin maître. Saint-Pierre, représenté ici bénissant, continue à être le principe et le fondement visible de l'Église catholique. L'autel monumental de la chaire de Saint-Pierre est l'œuvre du Bernin. La chaire est soutenue par les docteurs de l'Église, Saint-Augustin, Saint-Ambroise, Saint-Athanase et Saint-Jean Chrysostome, d'Orient et d'Occident. Ils soutiennent la chaire de bronze dans laquelle est enfermée la chaire de bois qui fut celle de l'apôtre Pierre. La basilique est construite sur l'apôtre Pierre lui-même. D'autres papes y sont ensevelis comme Saint Pidis. Beaucoup de tombeaux sont de magnifiques œuvres d'art, comme celui d'Innocent VIII d'Antonio Pollaiolo, ou d'Alexandre VII, œuvre du Bernin. Le souverain pontife est représenté à genoux entouré des statues de la justice, de la prudence, de la charité et de la vérité. La mort annonce que l'heure du trépas a sonné. Monument du pape Jean XXIII. Voici la chapelle du Très-Saint-Sacrement. C'est là qu'est conservée la Sainte Eucharistie. Le Saint-Sacrifice de la Messe est le centre de notre vie chrétienne, comme l'autel de la confession où se célèbre la Messe papale et le centre de la basilique, érigé juste au-dessus de la tombe de l'apôtre Pierre. Le baldaquin qui le surmonte est la première œuvre du Bernin. L'artiste mit 9 années pour le réaliser. Au-dessus du baldaquin, 4 anges portent chacun une chaîne. L'autre bout de la chaîne est attaché à un globe surmonté d'une croix. Ainsi la croix domine l'autel de la confession comme le signe le plus manifeste de notre salut. Plus haut encore, à 119 mètres, se dresse l'immense coupole de Saint-Pierre. Elle est décorée de somptueuses mosaïques représentant Jésus, la Vierge, Saint-Jean, Saint-Joseph et les apôtres. Elle est le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Ainsi, dans le ciel de la Rome éternelle, depuis presque 2000 ans, à travers les vicissitudes de l'histoire, l'Église romaine fondée sur Pierre continue. Les temples et les amphithéâtres se sont écroulés. Le Christ seul règne jusqu'à la consommation des siècles. Thank you.